Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éveil de Biome, une rubrique du podcast Biome. Dans ce nouvel épisode, au nom de film d'horreur, nous parlons d'une adaptation toute particulière d'un crapaud arrivé en Australie qui, pour survivre, est devenu cannibale. L'article vient du magazine Epsilon, dont on a déjà parlé ensemble. C'est le numéro 8, datant de février 2022. Il provient de la rubrique Thriller, ça ne s'invente pas, et est écrit par Alexandre Pienne et est basé sur des articles de 2021. Relatant les études, ainsi que sur des interviews de scientifiques. Le crapaud buffle, Rhinella marina de son petit nom scientifique, n'est pas originaire d'Australie, mais d'Amérique du Sud. Il a été introduit dans les années 30 pour lutter contre un coléoptère, ravageur des cultures de canne à sucre. Et comme bien souvent dans ce cas-là, non seulement ça n'a pas fonctionné, le coléoptère n'a pas disparu et a continué à faire des ravages, mais en plus, les crapauds buffles ont proliféré. Comme bien souvent, l'histoire se répète. Beaucoup d'espèces deviennent invasives, comme les vers plats dont on parlait la semaine dernière, après transport par activité humaine, volontaire ou non. L'article rappelle que si le crapaud buffle a autant proliféré, c'est pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'en Amérique du Sud, d'où ce crapaud est indigène, l'espèce a de nombreux prédateurs, des caïmans, des oiseaux, des poissons, des serpents, etc. Or, en Australie, les quelques prédateurs qui s'y sont frottés en sont morts. La raison, ce crapaud sécrète sur sa peau une toxine, la bufotoxine, qui peut tuer en moins d'une minute un varan qui tenterait de le goûter. En Amérique du Sud, les prédateurs des crapauds sont immunisés contre la toxine, probablement après des siècles d'évolution. Mais en Australie, aucun prédateur potentiel ne l'est. Et la deuxième raison de sa forte prolifération, c'est la capacité reproductive très importante de l'espèce, produisant jusqu'à 35 000 œufs à chaque ponte. Si le crapaud adulte est carnivore, les têtards, à l'origine, sont principalement herbivores, se nourrissant d'algues et de plantes aquatiques. Mais étant donné le nombre très important d'individus que comptent ces populations de têtards, cette source de nourriture est devenue trop réduite. Et les têtards ne sont que peu mobiles, confinés dans leurs mares ou leurs flaques d'eau, voire pas du tout pendant leurs deux premiers jours après éclosion. Les chercheurs ont alors montré un phénomène inédit chez cette espèce. Vous me voyez venir, du cannibalisme. En effet, les petits têtards, après quelques jours de développement, se jettent sur les derniers nés pendant les quelques heures durant lesquelles ces derniers ne peuvent ni fuir ni se cacher. Et comme ils n'ont pas de dents ou de moyens pour les croquer, ils les sucent directement à la sortie de l'œuf. Ainsi, jusqu'à 99% des populations de jeunes têtards viennent à être mangées par leurs propres congénères nés 2-3 jours avant eux. Et ce n'est pas une exception. Tous les têtards se livrent à ce carnage en règle, allant d'ailleurs jusqu'à n'attaquer que leurs congénères, et non les têtards des autres espèces. Cela permet ensuite de limiter la forte compétition intraspécifique. L'article relate alors qu'une étrange adaptation a été observée par les chercheurs. Déjà, les petits ont la capacité de sentir leurs aînés approcher. Mais ne pouvant pas fuir, à quoi cela peut-il leur servir? Eh bien certains accélèrent leur développement pour devenir plus mobiles rapidement. Lorsqu'il faut 48 heures en moyenne pour qu'ils puissent devenir mobiles, correspondant au développement et à l'acquisition de la mobilité de leur queue, certains ont d'abord pu gagner jusqu'à 9 heures sur ce temps de développement, et ainsi augmenter leurs chances de survie et le taux de survie de la population. Mais évidemment, tout a un coût, et cela augmente les risques de malformation et donc plus tard de survie. Mais une mutation génétique est apparue, permettant de réduire de 24 heures ce premier développement, sans séquelles ensuite. Cette mutation est donc en train de devenir majoritaire, favorisant fortement la survie des petits qui la portent. Au final, ce crapaud est un véritable calvaire pour la population humaine australienne qui essaye de gérer cette espèce, colonisant des territoires jusqu'à 70 km par an. Ce comportement permet déjà une autorégulation de la population, mais cela est encore insuffisant. Certains articles, comme celui du Monde que je vous mets en copie et qui date de 2018, relatent le fait que le séquençage du génome du crapaud a permis de trouver plusieurs virus qui pourraient être capables de cibler et limiter fortement les populations de l'espèce. Reste maintenant à s'assurer que ceux-ci ne vont pas également cibler des espèces indigènes bien intégrées dans les écosystèmes australiens. C'est une technique similaire qui avait d'ailleurs été utilisée contre les lapins de carène, eux-mêmes introduits en Australie et devenus très invasifs. Et puisqu'on parle d'amphibiens, c'est l'occasion de vous rappeler que les amphibiens sont protégés, et qu'en France en tout cas, il est indispensable d'avoir des autorisations pour les manipuler, car un contact avec des doigts secs et malhabiles peuvent leur porter préjudice. N'essayez donc pas d'attraper grenouilles, crapauds ou tritons, même pour les observer et les montrer à des enfants ou les déplacer. Le prochain épisode, qui ne sera probablement publié que dans 2 semaines, sera l'occasion de faire un petit point sur le nouveau rapport du GIEC, passé un peu inaperçu dans le contexte actuel, mais publié ce lundi 28 février. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.